Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bienvenue sur notre antenne si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Bien sûr, dans un instant, nous serons au cœur de la mobilisation, la troisième du genre pour les syndicats et à l'appel aussi des formations de gauche pour se mobiliser toujours contre la réforme des retraites. Mais ce sera juste après le rappel des titres de Mathieu Devez.
Le bilan s'aggrave en Turquie et en Syrie. Plus de 5000 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,8 hier. Il s'agit du séisme le plus meurtrier depuis 1999. Les recherches de rescapés se poursuivent aujourd'hui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées. Anne Hidalgo est désormais opposée à la présence de sportifs russes aux Jeux Olympiques 2024. Le 26 janvier, la maire de Paris s'était pourtant dite favorable à leur participation sous une bannière neutre. Un compromis qu'elle juge désormais indécent. Selon Anne Hidalgo, on ne va pas faire défiler un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si ça n'existait pas. Et puis les ventes en ligne ont progressé de près de 14% l'année dernière en France. C'est un nouveau record. Au total, les Français ont dépensé 147 milliards d'euros sur Internet. Une croissance poussée notamment par les services, les transports, le tourisme et les loisirs.
Merci beaucoup. Et pour m'accompagner, pour commenter l'actualité aujourd'hui, j'accueille Jean Messia. Bonjour Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous Pascal Vitopanelli. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité. Vous nous serez sans doute précieux dans les minutes, dans les heures qui viennent. Élodie Huchard est là également, du service politique. Bonjour Élodie. Et puis on attend d'une minute à l'autre Philippe Doucet, qui est porte-parole du PS et qui va nous rejoindre. La question, bien sûr, c'est celle-ci. Peuvent-ils réitérer une troisième fois la forte mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites? Pas si sûr, parce qu'on a déjà constaté ces dernières heures que la mobilisation s'était quelque peu tassée en région. Les syndicats, en tout état de cause, sont toujours unis et ils appelaient à manifester aujourd'hui un peu partout en France. Et puis ce cortège parisien, vous avez déjà suivi avec Lélie Mathias au cours de l'heure et demie qui vient de s'écouler, il est parti de la place de l'Opéra. Il est en train petit à petit de rejoindre son point d'arrivée, c'est-à-dire la place de la Bastille, avec déjà, ça et là, quelques tensions observées. Et vous êtes aux premières loges, Augustin Donadieu.
Effectivement, nous nous trouvons ici à l'angle du boulevard de Sébastopol et le boulevard Saint-Denis dans le 3e arrondissement de Paris. Une tension qui est arrivée d'un seul coup. La raison de ces tensions, ce sont deux enseignes de fast-food bien connues, des fast-food américains, pris pour cible par quelques éléments radicaux à l'avant du cortège. Alors les forces de l'ordre se sont déployées très rapidement pour appliquer cette nouvelle doctrine. Ils ont scindé cette nébuleuse en deux. Qu'est-ce que la nébuleuse? C'est ce groupe formé par quelques éléments qui sont donc radicaux en dehors du cortège syndical. Cette nébuleuse a été donc scindée en deux pour directement calmer toutes les tensions. Les forces de l'ordre ont saisi les banderoles revendicatives de ces personnes, les ont confisquées. Elles ont également interpellé quelques éléments qui se trouvaient dans ce cortège, dans cet avant-cortège. Une poubelle a été incendiée, très vite maîtrisée par les pompiers, mais tout semble être revenu dans l'ordre très rapidement, puisque vous le voyez à droite des images de Charles Pousseau, ce cortège qui maintenant continue sa marche vers la place de la Bastille. Et c'est maintenant non plus la nébuleuse que vous voyez sur cette image, mais bien le cortège syndical qui a retrouvé bien sûr tout son calme.
Merci beaucoup, merci Augustin. Bien sûr, vous nous tenez au courant si les choses venaient encore à évoluer. Un petit commentaire, Pascal Vitopanelli. On est là sur quelque chose d'assez classique, cette fameuse nébuleuse dont on parlait il y a déjà une semaine et puis précédemment pour la première mobilisation du 19 janvier. C'est-à-dire qu'on essaie de perturber à l'avant même du cortège, c'est-à-dire au-delà même du carré syndical, ce qu'on appelle le pré-cortège. Ça ne prend pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre du tout dans les heures qui viennent là.
Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas prendre, malgré un terrain quand même, je dirais, difficile pour cette nébuleuse, puisqu'on est sur la configuration d'un maintien de l'ordre, sur une manifestation qui a été traitée en cogestion, en co-organisation, tant avec les forces de police, la préfecture de police, que les organisations syndicales, et les services d'ordre syndicaux, plus une mobilisation qu'on voit quand même fédératrice. Donc ça, ça complique les possibilités de pénétration dans la manifestation.
D'autant que par deux fois, ils ont essayé, ça n'a pas vraiment marché.
Absolument, hein, mais soyons prudents.
Donc on reste sur cette doctrine. On n'en perd pas de vue le message, c'est toujours le même. Ce sont ceux qui s'opposent à ce passage de 62 à 64 ans pour partir à la retraite à taux plein. Et vous êtes Maxime Lavandier avec une de ces manifestantes qui a bien décidé de donner de la voix pour tenter de faire tomber cette réforme. Parce que pour l'instant, on le rappelle, hein, elle est examinée à l'Assemblée nationale. Mais la rue a décidé de dire non en bloc au gouvernement. Vous êtes avec Stéphanie. Stéphanie qui est fonctionnaire, je crois. Alors, je ne sais pas si elle est équipée ou si c'est Maxime avec qui je m'adresse.
Oui, bonjour Nelly. Oui, je suis là pour l'instant au niveau de la fin du cortège avec Stéphanie. Stéphanie, elle a 42 ans, elle est fonctionnaire. Bonjour Stéphanie. Alors, vous m'avez dit que vous étiez présente aux nombreuses manifestations avant. Voilà. Quel est votre objectif dans cette manifestation?
Bah, mon objectif, c'est que la réforme ne passe pas. Alors, présente jusque-là, j'essaie de faire tant bien que mal, mais justement, moi, je suis handicapée. Donc j'ai déjà du mal en fait à tenir debout et tout, mais là je pense que c'est vraiment trop important qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tenir dans ces conditions de travail comme ça. Si on était heureux, si tout se passait bien, si on avait des bonnes conditions, pas de souci, je pense qu'on pourrait tous aller très loin et travailler encore longtemps. Mais déjà à l'heure actuelle, on n'arrive pas avec l'âge qui est de maintenant. Donc nous demander 2 ans de plus, 3 ans de plus, enfin même juste 1 an, 1 jour, c'est pas possible. Déjà on n'atteint pas l'âge de notre retraite. Et enfin moi je vois, je travaille chez les pompiers. Et chez les pompiers, malheureusement, j'en enterre plein avant même qu'ils n'arrivent à la retraite. Donc moi, c'est niet et je pense que c'est hyper important d'être ici, de le montrer et que le gouvernement, il nous entende et qu'il nous voit et qu'il prenne les bonnes décisions, en fait, et qu'il arrête tout ça.
Est-ce que vous comptez, du coup, manifester samedi prochain?
Oui, tout à fait. Bah, là, je ferai tout ce que je peux, tant que mon état de santé me le permettra, en tout cas. Et après, bah, comme on a dit, s'il faut... Ils me mettront dans un siège et puis voilà, je me ferai rouler s'il faut. Mais ouais, je montrerai ma présence autant que possible, tout comme tous ceux qui sont présents. Et je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, parce que c'est aussi pour leur avenir qu'on est là. Et voilà, et j'espère que tout le monde entendra ce message et que tout le monde vienne le montrer en fait et comprenne. L'argent, il y en a. Donc les faux semblants, les fausses excuses, c'est pas à nous de nous les donner en fait. Nous, à ce moment-là, on veut des conditions de travail qui soit raisonnable, qui soit bien, qui nous mette bien et qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions, qu'on n'ait pas tous les burn-out, les épuisements professionnels. Enfin, moi, je l'ai eu aussi, donc moi, non, je peux plus. Voilà, pas un jour de plus, c'est clair.
Merci beaucoup, Stéphanie. Oui, Nelly, comme vous avez pu le voir, voilà, beaucoup de monde aujourd'hui mobilisé. On a pu voir tout âge, toute classe sociale et tous des étudiants ont retraité, nous ont dit que cette retraite à 64 ans, c'est non.
Merci beaucoup, Maxime Lavandier. Je vous propose aussi d'écouter le leader de la CGT qui a prévenu quoi qu'il se passe aujourd'hui, si le gouvernement persiste, en gros, à faire la sourde oreille, eh bien, il y aura des actions plus dures qui seront menées. Écoutons Philippe Martinez.
Les syndicats, ils agissent en fonction des débats qu'ils ont avec les salariés de leur secteur. Voilà, c'est ça la réalité. Après, tout dépend pas de nous. Si le gouvernement continue à s'entêter malgré les mobilisations, oui, je l'ai toujours dit, il faudra passer à la vitesse supérieure avec des actions plus marquées, plus longues dans le temps. Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, eh bien forcément, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà.
C'est-à-dire ?
Des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles.
Philippe Doucet nous a rejoint, porte-parole du PS. Bonjour Philippe. Quoi qu'il arrive donc aujourd'hui, même si on le voit, hein, la mobilisation commence un petit peu en termes numériques à se tasser pour ce qui est des manifestations de rue. Lui prévient, il y aura des actions beaucoup plus disruptives. C'est par là que passera le combat si dans l'hémicycle, les choses n'évoluent pas comme les syndicats le souhaitent aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien, bon, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde parce que c'est en quelques semaines, quelques jours, la troisième journée de grève. Donc, ça commence à peser sur le pouvoir d'achat.
Le vrai baromètre, ce sera samedi.
Voilà. Le vrai baromètre, c'est samedi parce que samedi, alors, il y a des gens qui travaillent le week-end. Il ne faut jamais sous-estimer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent le week-end. Mais en tout cas, pour les salariés classiques, le samedi, c'est plus simple. Et puis même pour emmener les familles, tout ça, c'est quand même plus facile. Donc, le vrai rendez-vous les samedis, mais on voit bien quand même déjà, pour la troisième journée consécutive, le monde. Donc, il y a ça. les organisations syndicales, les salariés, ils voient bien aussi le soutien dans l'opinion, parce que c'est aussi un jeu. La rue, c'est une chose, les organisations syndicales, c'est une chose. L'opinion, c'est aussi une troisième chose. Et même ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce qu'on voit bien qu'entre l'ensemble des formations de gauche, le Rassemblement national et même une partie des Républicains, on voit bien que le soutien politique à cette réforme, il est très étroit, parce qu'il n'y a même pas tous les Républicains, alors qu'ils étaient pour longtemps pour cette réforme. Bon, donc on voit bien que c'est compliqué. Donc les organisations syndicales mesurent bien ça aussi. On voit que les jeunes dans l'université, je vois que ça commence à, il commence à y avoir des discussions autour de ça. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, quand la réponse à la question, c'est tout le temps non, et comme j'ai entendu un humoriste sur une chaîne de radio qui disait, bon, de toute façon, Elisabeth Borne a dit non, mais de toute façon, c'était non avant aussi, quoi. Vous voyez, donc de toute façon, ça a toujours été non. Bon, voilà, donc les gens ne sont pas dupes de tout ça. Vous voyez aussi ce que disait cette manifestante, tout le monde est assez... Il faut voir aussi qu'à travers cette réforme de notre retraite, il y a aussi tout... toute l'histoire des conditions de travail qui remonte à travers ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est le monde du travail, le travail déstructuré, le travail précaire, l'ensemble de ces conditions-là. Les gens se disent, bon, le travail s'est durci dans beaucoup d'entreprises. Hein, et c'est, bon, quand vous travaillez chez Amazon et que vous portez des colis toute la journée, vous dites, à 64 ans, dans quel état je serais. Bon, donc on voit bien qu'il y a tout ça. Et puis, il y a aussi le sentiment des inégalités, cette manifestante le dit. D'argent, il y en a. Donc, on voit bien qu'il y a eu des suppressions de recettes fiscales, il y a eu un certain nombre de choses. Donc, les gens se disent, bon, on peut peut-être trouver l'argent et pour mieux vivre, quand même. Hein. Il y a une demande de mieux vivre dans le travail.
Jean-Michel, quel que soit le degré de mobilisation aujourd'hui, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne change pas, voire même qui se renforce, c'est le degré d'adhésion à la contestation. C'est-à-dire que je crois que 71%... des Français sont favorables à cette mobilisation de la rue, à cette contestation par la manifestation, bien qu'ils ne soient pas évidemment en surreprésentation parce que chacun a des contraintes diverses et variées dans sa vie. Mais voilà, le soutien populaire, il est acquis et il s'est même renforcé au fil du temps parce que je crois qu'on était de l'ordre de 5 points de moins il y a environ une grosse quinzaine de jours. Donc ça aussi, c'est quand même un bon indicateur de ce qui pourrait arriver en cas de passage en force, dirons-nous, à l'Assemblée.
Bah, écoutez, je pense que Macron et sa fine équipe sont extrêmement forts. Ils réussissent à bordéliser le pays pour une réforme des retraites qu'ils sont en train de détricoter maille après maille. Au point que même les journaux les plus macronistes, comme le JDD ou les Échos, aujourd'hui disent que cette réforme qui est censée aboutir à l'équilibre du système des retraites n'y arrivera pas, finalement. Alors, la réforme Touraine n'était pas simple, mais elle était à peu près lisible. La réforme Borne, avec toutes ses exceptions et ses dérogations, ce serait un bordel sans borne. Passez-moi le petit
sortie
mot d'esprit.
Toute seule, celle-là. Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, comme souvent avec Macron, tout le monde sera un peu perdant, finalement. Ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron pour avoir cette réforme des retraites bien dure sur le modèle libéral, etc., ils y seront pour leurs frais. Et ceux profondément hostiles à la réforme qui ont voté pour lui afin de ne pas avoir Marine Le Pen aussi. Donc finalement, tout le monde sera mécontent. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder le fond de la réforme après, parce que notamment sur les histoires de pénibilité, etc., parce que j'ai des choses à dire. Mais globalement, quand même, pour un président qui était censé créer la concorde nationale, rassembler les Français, le président de la bienveillance, de la tolérance, du vivre ensemble, bah, vous voyez quand même que beaucoup de gens sont dans la rue. C'est bien... Depuis les Gilets jaunes, la première fois même, c'est plus que les mobilisations des Gilets jaunes qu'on a dans la rue. Et je pense qu'il y a aussi, je terminerai par là, peut-être une réflexion philosophique à avoir, parce que quand on manifeste pour la retraite, le mot retraite est intéressant. C'est-à-dire que ce sont des gens, enfin en tout cas les Français, une grande partie des Français, parce qu'il y a ceux qui sont dans la rue, ceux qui les soutiennent, veulent finalement se retirer du monde qu'on leur offre aujourd'hui, de ce monde de chômage, de ce monde de perte de sens, où les gens passent leur vie à la gagner, mais sans avoir de verticalité, sans trouver un épanouissement dans leur travail, de ce monde insécure, de ce monde où il n'y a plus ni d'identité, ni de sécurité. Et donc, en fait, les gens manifestent philosophiquement, si vous voulez, pour non seulement, bien sûr, contre cette réforme, mais au-delà de cette réforme, tout le sens de la société dans laquelle nous vivons qui attise aujourd'hui les oppositions.
Oui, on comprend bien ce que vous voulez dire. Alors, Élodie Huchard, il s'est passé beaucoup de choses d'ores et déjà dans l'hémicycle hier, et on va y revenir. Il y a eu plusieurs séquences assez marquantes, mais puisqu'on parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, le débat, l'examen du texte à proprement parler va reprendre dans un peu plus d'une heure. Là, puisqu'on est mardi, on en est au traditionnel exercice des questions au gouvernement. Hein, la tradition est respectée. Mais Élisabeth Borne n'a pas échappé d'ores et déjà à quelques questions sur les retraites. Et voici ce qu'elle avait à dire sur d'autres aménagements possibles, selon elle.
À l'heure où le débat commence, je suis convaincue qu'il reste des points d'accord à trouver. Je suis convaincue que nous pouvons améliorer ce texte ensemble. Cela passera par le débat, la confrontation d'idées et bien sûr le respect. Les dégradations, les intimidations, ça n'est pas la démocratie. Aujourd'hui, les murs de l'Assemblée nationale ont été dégradés, mais ce sont parfois vos permanences ou vos domiciles. Je veux dire mon plein soutien et celui du gouvernement aux élus concernés, quel que soit leur parti politique. Je vous remercie.
Je le rappelle, il y a tant à dire et on va revenir au... incidents, il faut bien les appeler ainsi, il y en a eu toute une succession. Là, ce qu'elle veut dire aussi, quand elle parle de concessions, évidemment, elle s'adresse en premier lieu au LR, parce que le plein des voix n'a pas été fait, malgré les fameuses concessions sur les carrières longues. Mais il y en a encore qui font de la résistance. Il est bon de le rappeler, parce que vraiment, sur le plan numéraire, ça n'est pas acquis du tout, hein, cette histoire.
Ah non, alors non seulement c'est pas acquis, et là en l'occurrence Elisabeth Borne, elle répond à André Chassaigne qui fait partie de la NUPES quand elle dit il y a peut-être des points d'accord à trouver. Alors si elle veut s'entendre avec la NUPES, c'est très simple, il faut retirer le texte. Donc voilà. On ne pense pas
ça
qu'il en arrive
compliqué.
Jusque-là, mais effectivement, il cherche une majorité. C'est un équilibre très compliqué pour la Première ministre parce que quand elle concède des choses aux Républicains, eh bien parfois elle vexe ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie. Il faut aussi rappeler que le groupe majoritaire lui-même n'est pas sûr de voter intégralement comme un seul homme ce texte. Et puis chez les Républicains, Elisabeth Borne ne s'en est pas d'ailleurs cachée. Elle a fait un certain nombre de concessions, mais elle commence à être un peu agacée, puisque d'un côté on a Éric Ciotti, Olivier Marleix qui disent vous avez cédé à certaines de nos revendications, on pourrait voter le texte, mais il y a d'un autre côté Aurélien Pradier, un certain nombre de ses amis qui de toute façon ne seront jamais contents des concessions. Donc en plus, la Première ministre est face à des groupes qui sont très disparates, et pour parler LR, finalement, il faudrait qu'elle parle à chacun des 62 députés, parce qu'il y a quand même aujourd'hui un vrai manque de leadership au sein de ce groupe.
C'est vrai que ça rue un peu dans les brancards de toutes parts aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que, vous avez raison de le rappeler, dans le parti présidentiel, les équipes, enfin les députés autour de Barbara Pompili et tout ça considèrent qu'ils veulent un certain nombre de points d'amélioration. Ça, c'est une chose. Et chez LR, vous l'avez rappelé, en fait, Éric Ciotti, tout le monde découvre, si besoin était, qu'il ne tient pas ses troupes. La réalité, c'est ça. Et que donc, l'élection... post-élection du responsable des Républicains, eh bien, M. Pradier, lui, continue à mener sa vie. La difficulté politique, pourquoi il y a tout ça? La difficulté, c'est que tout le monde se dit, bon, tout ça, c'est bien sympathique, mais Emmanuel Macron, en 2027, il part faire autre chose. Ça va être une réforme emblématique. Et quand on va faire les bilans, on va dire, bon, Pradier, t'as voté quoi? Ciotti, t'as voté quoi? Barbara Pompili ou ses amis, vous avez voté quoi? Et donc, du coup, les gens sont déjà... C'est tout le problème de ce quinquennat où il n'y a pas... où Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. C'est-à-dire que, du coup, eh bien, les députés se disent, bon, mais à un moment donné, dans ma besace, il va y avoir ce que j'ai voté au moment de...
Il y aura un bilan comptable à faire.
Vous aurez un bilan.
Ouais.
Et les gens se disent, bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'une partie de la base des LR, en fait... La base historique des LR, les seigneurs, ils sont partis chez Emmanuel Macron. Donc, selon les territoires, eh bien, les députés font attention à leur propre survie. Et donc, quand vous avez des députés, j'ai vu qu'il y avait des députés proches de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Bon, les types se disent, voilà, attention, il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Voilà, Monsieur Dive, qui est le bras droit de Xavier Bertrand, il se dit, où est-ce qu'est le sol? Voilà. Et Barbara Pompili, elle se dit, où est-ce qu'est le sol? Parce qu'il y a un après. Et donc, tout le monde est déjà dans l'après. Et donc, c'est vrai que Elisabeth Borne va avoir beaucoup de difficultés parce que Ciotti ne tient pas ses troupes. La réalité, c'est ça.
Avant de retourner dans le cortège, parce que là, on voit qu'il est quelque peu à l'arrêt. En tout cas, ça stagne.
Ça met toujours du temps à démarrer, parce qu'il y a beaucoup de monde.
À démarrer, ça fait quand même pratiquement deux heures qu'on y est. Hein,
oui, mais...
Dans un froid, quand même, un peu.
La dernière fois, Place de la Bastille, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à démarrer. Hein.
J'aimerais, Élodie, puisqu'elle l'a mentionné elle-même dans sa voix tout à l'heure, revenir à ces incidents. On va peut-être prendre le dernier en date, c'est-à-dire ces dégradations qui ont été commises tôt ce matin, et puis plusieurs actions aussi menées par attaque, je crois, avec la présence même de députés LFI, hein, faut le préciser.
Oui, effectivement, la dernière attaque en date, justement, sans mauvais jeu de mots, c'était ce matin devant l'Assemblée nationale. D'un côté, l'une des entrées de l'Assemblée et la statue place du Palais Bourbon qui ont été dégradées. Alors, effectivement, on sait que c'est attaque qui est à la base de cela. Et on a vu sur les réseaux sociaux que trois députés, membres de la France Insoumise, dont Aurélie Trouvé, d'ailleurs, qui a travaillé pour cette organisation, était présente. Visiblement, selon ce que disait Yaël Braun-Pivet, parce qu'elle s'est exprimée là-dessus, la présidente de l'Assemblée nationale, certaines personnes qui ont participé à cela, voilà, on le voit sur les images, ont été arrêtées. Et puis, forcément, c'est dans un climat, il faut bien comprendre, Elisabeth Borne, elle en parle, où les permanences des députés sont très souvent attaquées, taguées, parfois cassées, où on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de députés qui montrent aussi les messages de menaces de mort qu'ils ont reçus sur ce texte des retraites. Et puis il y a eu aussi hier soir, et c'est aussi sans doute ça dont parle la Première ministre, des députés issus du Rassemblement national qui ont reçu des messages vocaux de personnes qui pour l'instant ne sont pas identifiées, disons que certains de leurs proches étaient, et notamment des enfants, étaient hospitalisés, le but évidemment pour les faire sortir de l'hémicycle.
On y reviendra un petit peu plus tard. J'aimerais juste, avant de conclure cette première demi-heure, qu'on aille retrouver une de nos équipes à nouveau sur le terrain. En l'occurrence là, c'est Simon Guilin qui est en ligne avec nous. Simon, à quel endroit du cortège vous trouvez-vous et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur les messages, la teneur des échanges entre les manifestants autour de vous ?
Écoutez Nelly, je vous entends très mal, mais j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on est sur les grands boulevards. Le cortège s'est donc élancé aux alentours de 14h de la place de l'Opéra, donc direction la place de la République. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, eh bien, la manifestation, vous le voyez, je pense, sur les images, se passe très bien. Il y a bien sûr, pour l'instant, aucun débordement. Nous sommes donc à 850 mètres de la place de la République. Alors les manifestants, forcément, on a échangé beaucoup avec eux. Et on sent vraiment cette colère, cette détermination qui ne faiblit pas. Ils veulent vraiment continuer à se battre autant longtemps qu'ils le peuvent, aussi longtemps qu'ils le peuvent, contre cette réforme des retraites à 64 ans. On en voit beaucoup, des pancartes. Non, pas 64 ans, on va se battre. On veut une retraite même à 60 ans, même un petit peu avant. Donc voilà, on a interrogé beaucoup de personnes, des étudiants, des retraités, des professionnels, tout type de personnes. Et on sent vraiment que la colère ne faiblit pas chez ces manifestants. Ils veulent revenir samedi. Toutes les personnes que nous avons interrogées aujourd'hui veulent revenir samedi pour manifester une nouvelle fois. La quasi-totalité, encore une fois, des manifestants ont participé aux deux mobilisations précédentes. Donc voilà, une manifestation qui se passe très bien pour le moment. Vous le voyez sur ces images, dans la bonne ambiance. Nous nous dirigeons donc vers la place de la République avec une arrêt vue privée, place de la Bastille, si tout se passe bien, aux alentours de 19h. Et nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de ce cortège parisien.
Merci beaucoup Simon, Pascal Bitot-Panelli. Il y a quand même pour l'instant, donc on va le dire, une atmosphère bon enfant qui règne. J'ai juste une question. Est-ce que le beau temps, parce que c'est la première fois qu'il fait franchement très beau sur ce parcours depuis qu'on se mobilise contre les retraites, enfin contre la réforme, est-ce que le beau temps peut favoriser l'envie pour certains d'en découdre à la fin du cortège, ou ça n'a rien à voir comme paramètre ?
On va dire que la météo reste quand même un paramètre important du maintien de l'ordre. Quand il fait très froid, qu'il fait un temps abominable, il est vrai qu'une partie de la foule qui a plutôt tendance à vouloir raccourcir sa manif et à rentrer. Maintenant, il est vrai que ça en fait partie, mais on est surtout plus sur pour qu'on ait des introductions d'éléments à risque, on va dire, et radicaux. On est plutôt sur le fait qu'il faut qu'on ait une grosse densité et qu'on ait du flux en dynamique. Où c'est là on a les éléments qui leur permettent de rentrer. Mais comme je vous le disais en introduction, ça reste, vu ce concept de manifestation, difficile pour eux de pénétrer. D'une part parce qu'il y a une très forte mobilisation policière avec un gros effectif. Il faut toujours prévoir un dispositif.
Ils sont 11 000 ans.
Voilà, bien dimensionné, bien calibré, bien déployé. Par ailleurs, l'aide à un relais très efficace pour les forces de l'ordre, qui est celui des services d'ordre syndicaux. Donc on a tendance à bien canaliser. Ça veut dire que ça n'est pas impossible, mais c'est plus difficile pour eux. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une dynamique de basculement et de points de cristallisation sur un endroit ou sur un autre.
Eh bien, écoutez, on va quand même espérer que cela reste tel quel pour la bonne marche de la mobilisation et pour la sécurité de tous les manifestants. On s'interrompt quelques secondes et puis on revient pour le journal de Mickaël Dorian et puis pour parler aussi de ces messages vocaux reçus par trois députés du RN hier et qui se sont confiés. D'ailleurs, vous entendrez certaines de ces représentantes de la nation dire ce qu'elles ont ressenti au moment de recevoir ces messages malveillants. À tout de suite. Une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites à laquelle nous serons dans un instant avec toutes nos équipes. Ce sera juste après le JT qui, bien sûr, va évoquer également cette journée de manifestation. Mickaël Dorian, bonjour.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne continue de soutenir son ministre du Travail. En fin de semaine dernière, le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt en lien avec un groupe de traitement de l'eau. L'affaire qui remonte à l'époque où il était maire d'Annonay. Écoutez la première ministre, elle était interrogée sur ce sujet lors des questions au gouvernement.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-Toul, je veux peut-être vous ramener à la réalité. Vous n'êtes pas un procureur, nous ne sommes pas dans un tribunal. Vous êtes un élu de la nation, nous sommes à l'Assemblée nationale. Et vous savez, monsieur le député, au cœur de notre démocratie, il y a un principe, la présomption d'innocence. Et moi, je veux dire toute ma confiance, toute la confiance du président de la République à Olivier Dussopt, qui est un ministre engagé, qui a été un député engagé, qui a été un maire engagé. Je vous remercie.
La mobilisation contre la réforme des retraites à présent. En région, la police a recensé 23 000 manifestants à Toulouse, 15 000 sur le Vieux-Port à Marseille, comme vous le voyez sur ces images. Dans certaines villes, les manifestants ont commencé à battre le pavé dès ce matin, mais l'engouement semble moins fort que lors des deux précédentes journées. Les précisions de Kinson.
De Marseille à Avignon, en passant par Brest et Toulouse, les manifestants veulent maintenir la pression sur l'exécutif contre la réforme des retraites. Le cortège avignonnais s'était lancé en fin de matinée ce mardi. Munis de leurs pancartes, ils montrent leur détermination.
Il y a d'autres moyens de trouver en fait des fonds pour pouvoir laisser les gens partir avec une retraite convenable.
Déjà, on est fatigué à notre âge, donc s'il faut faire 2 ans de plus.
À Marseille, alors que le cortège plus clairsemé s'élance du Vieux-Port, la participation semble moins importante que lors des deux premières journées de mobilisation. À Lyon également, l'engouement semble moins fort. La ville est en période de vacances scolaires, ce qui pourrait expliquer en partie cette baisse de la fréquentation. Même constat à Brest. Le 31 janvier, ils étaient 20 000 manifestants pour une ville de 140 000 habitants.
J'ai la chance de pouvoir ne pas travailler puisque mon mari gagne suffisamment bien sa vie. Et je suis là pour manifester pour tous les gens qui n'ont pas les moyens de le faire.
Une journée de salaire en moins peut décourager, d'autant que le bras de fer s'engage dans la durée.
Je ne pense pas qu'il y aura de la lassitude parce que ça a commencé les débats là, au Parlement. Et je pense que les gens ils ont compris quand même qu'il fallait se mobiliser pour porter tous leurs députés.
Malgré un essoufflement dans les cortèges, tout le monde pense à la suite du mouvement en s'organisant différemment. Pour l'heure, une autre journée de mobilisation est prévue samedi.
Alors, mobilisation dans la rue, dans les transports aussi, on le verra dans un instant, mais également dans les facs. Selon une source policière, 9 sites universitaires et 24 lycées sont perturbés en France avec 14 blocages à l'université de Tolbiac. Notamment, écoutez la présidente de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France.
Alors depuis ce matin, il y a un blocage des ascenseurs sur le campus de Tolbiac de l'université Paris 1. L'objectif, c'est de pouvoir en fait bloquer l'accès aux salles de cours sur l'ensemble du bâtiment. Aujourd'hui, notre quotidien en tant qu'étudiant à 20 ans, c'est de faire la queue dans des distributions alimentaires pour se nourrir. Et ce qu'on ne veut absolument pas, c'est à 67 ans, rebelote, continue à faire la queue dans des banques alimentaires pour pouvoir manger à la fin du mois. Et donc c'est pour ça que les jeunes sont mobilisés aujourd'hui et qui rejoindront l'ensemble des cortèges à travers la France pour faire entendre la voix de la jeunesse.
Et à noter que selon le ministère de l'Éducation nationale, le taux d'enseignants grévistes est de 14% aujourd'hui. C'est nettement moins que le 31 janvier dernier où ils étaient un peu moins de 26%. Le 19 janvier, lors de la toute première journée de mobilisation, il y avait 35% d'enseignants grévistes. Dans les transports parisiens à présent, la grève est moins suivie également que le 31 janvier, surtout dans les bus et les tramways. Et même si certains usagers ont anticipé et se sont levés plus tôt, ils sont dans l'ensemble moins impactés. Écoutez.
ça prend du temps. Là, pour aller au travail, il faut que je me réveille 7 heures du matin. Donc c'est très compliqué en fait.
Alors j'ai changé d'itinéraire, j'ai abandonné les métros, mais autrement, je suis pas parti vraiment plus tôt que d'habitude. Les transports extérieurs sont pas trop affectés, j'ai d'autres routes pour me rendre à mon université, donc c'est pas vraiment un problème.
Honnêtement, j'ai pas eu trop de problèmes aujourd'hui pour arriver. Bon, là je vais au travail, c'est juste que la station où je descends d'habitude est fermée. Pour travaux, ils ont dit. Du coup, j'ai préféré venir prendre le tram pour aller à mon travail.
Je suis partie plutôt de chez moi pour faire face à la grève.
Et je m'attendais à pire. Donc ça va.
Et puis les recherches se poursuivent en Syrie et en Turquie pour tenter de retrouver des survivants après les séismes tragiques qui ont fait plus de 5000 morts. Regardez les images incroyables de ce bébé sauvé miraculeusement des décombres. Sur place, les secours sont mobilisés nuit et jour. Et alors que l'aide internationale s'organise, écoutez ce secouriste français en plein briefing avec son équipe tout juste arrivée en Turquie.
On va donc devoir faire toutes les formalités de coordination internationale. Coordination d'abord avec les autorités turques, bien sûr, avec le mécanisme européen et l'ONU. Une première zone avait été envisagée, puis une deuxième. Là, on nous parle d'une troisième qui devrait être accessible par voie routière à 2 heures de route d'ici. Donc notre objectif pour remplir l'aide de la mission va être d'aller au plus vite faire des reconnaissances sur ce lieu.
Et voilà Nelly, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr avec vous et la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup, cher Mickaël. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouveaux rendez-vous de l'actualité en votre compagnie. Retour dans le cortège, sans plus tarder. Cela fait 2 heures maintenant qu'il s'était lancé de la place de l'Opéra pour rejoindre la Bastille. C'est un assez long parcours tout de même, à peu près 3 kilomètres. Et on va retrouver Augustin Donadieu. Augustin qui depuis... le début de cette mobilisation de ce mardi est à l'avant du cortège où il y a eu quelques tensions, quelques échauffourées. Le calme est revenu. Là, on a l'impression, en tout cas sur vos images, que cette manifestation se déroule sans anicroche.
Eh bien, c'est exactement ça. La manifestation se déroule dans un calme apparent. En tous les cas, ici, la tête de cortège arrive place de la République. Alors, c'est une tête de cortège très dispersée parce que ce que vous voyez là, ça n'est même pas le cortège syndical qui se situe encore en amont de cette tête de cortège. Tête de cortège qui donc arrive place de la République et qui se contient ici, qui fait un stop pour vraiment rassembler les troupes. Il reste un peu moins de 2 kilomètres avant d'atteindre la place de la Bastille, le point d'or de cette troisième journée de mobilisation depuis le 19 janvier. Il reste environ, selon nos calculs, à peu près 1h30 de marche pour que cette tête de cortège arrive jusqu'à la place de la Bastille, bien plus longtemps évidemment pour que la queue de cortège rejoigne eh bien, ce lieu d'arrivée. Alors, donc le cortège syndical, lui, n'est toujours pas arrivé, mais peu d'incidents à déplorer, hormis quelques feux de poubelle que l'on a pu constater sur le cortège, avec des pompiers qui sont très vite intervenus pour les éteindre. Une enseigne de fast-food très connue, qui a commencé à être attaqué par des éléments radicaux, incident très vite eh bien, interrompu par les très nombreuses forces de l'ordre eh bien, présentes tout au long de ce cortège. Tout se déroule pour le mieux en ce moment ici, place de la République.
Merci beaucoup Augustin pour ces premières impressions de terrain à 16h passées de 7 minutes. On va écouter, tout à l'heure on a entendu Philippe Martinez qui disait... On ira au bout des blocages. S'il le faut, ce sera encore plus dur. Des actions plus jusqu'au boutistes seront menées pour tenter de bloquer le pays. Eh bien, Laurent Berger, lui aussi, fait partie de cette mobilisation. On sait que ce front syndical, il n'a pas toujours été au diapason sur le type d'action à mener. Mais néanmoins, il a l'air assez déterminé aujourd'hui, le responsable de la CFDT. Écoutez.
Le président de la République, comme le gouvernement, comme le Parlement, ne peuvent pas rester sourds au fait que cette réforme, et notamment le report de l'âge légal à 64 ans, est rejetée par une grande majorité de l'opinion, une immense majorité du monde du travail, dont une partie de ce monde du travail manifeste partout en France, y compris dans les villes moyennes et les petites villes, à des chiffres de manifestants énormes. Donc ce serait folie, c'est une folie démocratique de rester sourd à cela.
Ce serait une folie démocratique de rester sourd à cela, Jean Messia. Bon, ce ne serait pas la première fois, de toute façon, qu'une réforme passerait malgré l'opposition de la rue.
Alors, le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes face à un paradoxe. C'est-à-dire que dans une démocratie, effectivement, c'est le vote, et notamment le vote majoritaire, qui décide finalement d'une politique. Le problème, c'est que le vote majoritaire ne saurait être un blanc-seing accordé au gouvernement pour faire un peu ce qu'il veut, parce qu'effectivement, il y a eu les conditions de l'élection présidentielle de 2022 les motivations des électeurs étaient multiples. Ce n'est pas parce que des électeurs ont mis Emmanuel Macron en place que c'était un blanc-seing en faveur de la réforme des retraites. Il y a des gens qui ont voté pour le programme d'Emmanuel Macron, en tout cas pour ceux qu'ils en percevaient, mais pas pour la réforme des retraites. Donc oui. Le problème, c'est que maintenant, vous avez la rue qui s'exprime. Troisième journée de mobilisation, plus d'un million de personnes dans la rue, c'est pas rien. Et donc je crois qu'un pouvoir, même élu, peut être intelligent, peut avoir des capteurs sur le terrain. On a d'abord les sondages qui montrent quand même que cette réforme est très impopulaire. On a le plus de un million deux cent mille personnes mobilisées, pas seulement d'ailleurs dans les grandes villes et les grandes métropoles, mais également de plus en plus dans la France périphérique et la France rurale. Donc nous avons une contestation du pays profond face à cette réforme. Alors évidemment, cette protestation, elle part, elle a pour catalyseur la réforme des retraites, mais c'est une contestation, je pense, aussi beaucoup plus profonde du macronisme, du gouvernement. C'est un rejet du gouvernement. Et quand on voit sincèrement la nature de cette réforme, il y a de quoi. Il y a évidemment, on en a parlé beaucoup, l'âge de la retraite à 64 ans qui est massivement rejeté par les Français. Il y a aussi la question de la pénibilité. Juste pour faire un rappel, vous savez que la pénibilité dont le gouvernement nous dit qu'il a tenu compte en long, en large et en travers, ça devient dans la réforme une question subjective. C'est-à-dire qu'on n'identifie pas des métiers qui sont par nature pénibles. On va, faire porter sur le salarié qui exerce ses métiers la pénibilité. Donc il y a un médecin qui, à partir de 58 ans, 59 ans, 60 ans, va venir décider si, malgré votre métier, la pénibilité de votre métier que vous avez exercé pendant 43 ans, eh bien, si vous êtes encore en état de continuer à l'exercer ou pas. Donc vous voyez, oui. c'est quelque chose
On ne sait pas si la complaisance va aller dans un sens ou dans un autre.
Et juste un dernier point. C'est que quand vous avez passé 43 ans à cotiser, vous avez en quelque sorte investi pour pouvoir ensuite avoir une retraite. Or, on sait très bien que pour les métiers pénibles, l'espérance de vie, une fois que vous avez pris votre retraite, est en réalité assez faible. Donc en fait, le gouvernement est gagnant. C'est-à-dire qu'il va faire cotiser 43 ans ou 40 ans même pour les métiers pénibles des gens qui vont ensuite avoir une retraite pendant 3, 4, 5 ans avant de disparaître de ce monde. Donc en fait, le gouvernement cherche à équilibrer aussi la retraite par ce calcul gagnant un peu morbide et, pour tout dire, inacceptable.
Sur ce point-là au moins, bon, je ne vais pas vous faire commenter ou renchérir dans le sens où vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec lui sur la pénibilité, Philippe Doucet. Moi, j'aimerais qu'on revienne à cette logique comptable et ce catastrophisme finalement qui anime l'exécutif, qui nous dit si on ne le fait pas maintenant, après ce sera trop tard, on courra après la machine et les pensions seront revues à la baisse. Qu'est-ce que vous lui répondez? Parce que finalement on entend tout et son contraire dans cette affaire. On nous dit il n'y a pas d'argent, mais oui il y a de l'argent, mais si on a encore quelques années devant nous. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu le principe de l'optimisme versus le pessimiste, hein, cette affaire.
Oui, alors. Peut-être, juste si vous me permettez, sur la question présente, le fait que Laurent Berger et les syndicats réformistes, la CFDT, mais pas que la CFDT, qu'en tout cas que les syndicats réformistes soient complètement dans la bataille, change radicalement la donne. Parce que du coup, oui. Pour le moment, le front syndical, il tient.
C'est vrai.
Il tient, et finalement, l'accord, y compris sur la gestion des grèves entre la CFDT et la CGT, notamment, mais aussi Force ouvrière, l'UNSA, montre aussi un front, c'est pas toujours le cas, parce que des fois, les syndicats réformistes sont pas dedans. Et là-dessus, Laurent Berger, vous l'avez entendu à l'instant, vous avez présenté son interview, son entretien, on voit bien qu'il y a ça. Et donc ça, c'est une donnée fondamentale. Le fait que Laurent Berger mène la bataille jusqu'au bout est une donnée essentielle, puisque ça veut dire que les syndicats réformistes sont dedans. Ça, c'est le premier point sur la première question. Sur votre deuxième question, derrière, je regardais, vous voyez, des échanges. Les gens vous disent, mais attendez, on a supprimé, on n'a pas d'argent, mais on a supprimé la taxe d'habitation. On n'avait pas d'argent, on avait la dette, et finalement, quand il y a eu le Covid, bah, l'argent, on l'a trouvé. Et puis, trois, on voit bien aussi la logique de la fraude ou la fuite fiscale ou l'optimisation fiscale.
Oui, mais justement, on vous dit, donc, cet argent-là, on l'a cramé pour le Covid.
Oui, peut-être, mais vous l'avez entendu la manifestante tout à l'heure qui dit, bah, finalement, les gens sont conscients aussi que. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens pour qui ça va très très bien, qui ont fait des boîtes ou des patrons qui ont fait d'énormes profits, qui font de l'optimisation fiscale. Tout se sait, Nelly. Aujourd'hui, tout se sait.
C'est vrai,
tout le monde
vrai.
Sait que telle boîte a son siège à Amsterdam pour faire l'optimisation fiscale. Tout le monde sait que Bernard Arnault a son domicile à Bruxelles. Tout... Vous voyez, il n'y a pas que Gérard Depardieu qui a son domicile à Bruxelles, il y en a d'autres. Vous voyez, donc les gens le savent. Et quand ils ne le savent pas, ils le sentent, ils se disent, ceux qui savent, savent gérer leurs intérêts ouais. au mieux. Et nous, on va nous demander, dans des métiers qui se sont dégradés, où les conditions de travail et même le respect du haut travail... dessus. Donc on a bien vu, parce que ça fait longtemps qu'on n'applaudit plus les livreurs et les caissières dans les hypermarchés comme on l'a fait au moment du Covid. Les gens le savent.
Il y a beaucoup de socialistes qui font l'optimisation.
Donc, et du coup, les gens le savent, tout ça. Et donc ils se disent, bon, on voit bien la manière de travailler. Et puis par ailleurs, pour le coup, je partage ce que vient de dire Jean Messia, il y a aussi l'aspect comment Macron...
Sur les socialistes.
Donc, non, mais comment Macron...
Parce qu'il vient de dire ça.
Non, mais bon, au-delà des blagues de M. Messia. Mais les gens sentent bien aussi que sur Emmanuel Macron, il y a aussi quelque chose du surplomb macroniste sur ces classes populaires et ces classes moyennes. Et finalement, c'est le problème de cette élection présidentielle. C'est une élection présidentielle par défaut et pas une élection présidentielle. On dit, voilà, on a soutenu le projet d'Emmanuel Macron. 28% des gens ont soutenu Emmanuel Macron. Les autres, ils ont voté contre Marine Le Pen.
Oui, mais c'est le même effet.
Un mot... Oui,
mais sauf que ça lui donne
c'est-à-dire
pas...
Que même...
Il a une légitimité démocratique... Mais la légitimité politique, elle est à gagner.
Non, mais M. Doucet, la NUPES ne peut pas aujourd'hui venir exciper, si vous voulez, de son rejet de Macron et donc de son rejet de la réforme, alors même que, quelles que soient les raisons d'ailleurs, l'effet est le même. La NUPES, tous les partis de la NUPES ont porté au pouvoir Emmanuel Macron.
Parce qu'ils ne voulaient pas que vos amis arrivent au pouvoir.
Et ça change aujourd'hui. Et ça change aujourd'hui.
Parce qu'ils
ont fait passer
derrière,
ce pays contre,
entre,
lequel, contre la réforme duquel ils s'opposent.
Entre la peste et le choléra, vaut mieux Emmanuel Macron d'un point de vue démocratique que votre ami Marine Le Pen.
Pas du tout.
Vos grands amis Éric Zemmour.
Pas du tout.
C'est une logique démocratique.
D'accord. Ils sont très amis.
Si c'est une logique démocratique, qu'ils la respectent et qu'ils se retirent de la rue. S'ils vont au bout de leur logique.
Non, mais s'ils vont au bout de leur logique, ils ont voté contre. Pour empêcher, pour que la démocratie reste dans ce pays, ça ne veut pas dire qu'ils ont voté pour le projet présidentiel de
Pascal, merci. Pascal Vito-Panelli, un mot quand même sur ce qui pourrait se passer maintenant. En admettant que le gouvernement ne cède sur quasiment rien maintenant et que la situation se corse et se tende dans la rue, est-ce qu'on peut revenir, comme certains le craignent, à un scénario de gilet jaunisation de notre société qui pourrait aller vers voilà, des manifestations qui se déroulent beaucoup moins bien que celles d'aujourd'hui, par exemple? Ça, c'est une crainte dans le cas d'un statu quo total, à la fois parlementaire et syndical.
Écoutez, dans l'écologie des risques, je pense qu'il faut tout envisager et qu'on voit, on constate déjà à l'évidence, ça vient d'être dit, qu'on a une expression contestataire très ancrée et polymorphe sur l'ensemble de la France, quels que soient les secteurs professionnels. Ça prouve donc qu'il y a un gros degré de désaccord. Si maintenant on part dans une logique de bras de fer, on peut penser que les mouvements vont durcir. Est-ce qu'on ira jusqu'à un maintien de l'ordre très déstructuré, désorganisé, qui tourne à des situations très dégradées? Je ne sais pas, je ne l'espère pas, mais les forces mobiles de sécurité vont bien sûr, dans la lecture de tout ce qui va se passer, l'envisager.
Entendant dit qu'on voit quand même une dégradation là sur un panneau d'affichage de la ville. Vous voyez le verre qui a été cassé. Voilà.
Le truc débile qui sert à rien. Là.
Voilà. Au passage de quelques vandales. Élodie Huchard, j'aimerais, parce qu'on l'a abordé qu'à demi mot tout à l'heure, qu'on revienne quand même à ce qui s'est passé hier. Ça a beaucoup préoccupé, même ça l'a mise en colère. Marine Le Pen, ses appels malveillants reçus par 3 députés pour tenter de leur faire quitter l'hémicycle en plein vote. On va peut-être écouter d'ailleurs la réaction de la patronne du RN à l'Assemblée. Et puis après, on entendra une des principales concernées. Vous nous raconterez en quoi ça aurait pu vraiment remettre en question cette motion qui, de toute façon, effectivement, n'a pas été votée, mais son dépôt même et son examen même. C'est parti avec Marine Le Pen.
Nous saisissons ce matin le procureur, les 3 députés qui ont été destinataires de cette manœuvre, mais également le groupe. Puisqu'il s'agissait là, de manière très claire, d'entraver en réalité l'exercice du mandat du groupe Rassemblement National, puisque l'objectif de ces appels malveillants était de pousser une ou deux députés signataires, ou 3 d'ailleurs députés signataires, à ne pas être présents au moment de l'appel de la motion, ce qui avait entraîné la chute de la motion et l'incapacité pour nous de la défendre. Donc l'opération était relativement bien montée.
Voilà. Et l'une des principales concernées, s'en est exprimée aujourd'hui. Alors hier, les noms ont circulé de celles qui avaient reçu ces appels. Ce sont des femmes, hein, vous me corrigez si je me trompe, Élodie. Et voilà, aujourd'hui, l'une d'entre elles s'était penchée un petit peu sur ce qui s'était passé et sur la manière dont elle avait réagi.
J'ai reçu un appel numéro masqué, hein, sauf que si vous voulez, dans ma vie personnelle, j'avais souvent des appels numéro masqué qui venaient d'un hôpital parce que mon mari était très souffrant. Donc j'ai eu un réflexe de pavlovien, c'est-à-dire que j'ai décroché et j'ai eu un monsieur qui m'annonçait que quelqu'un de ma famille venait de rentrer à l'hôpital de Calais en urgence et qu'il fallait que je rappelle cet hôpital. Donc bien sûr, j'ai raccroché, j'ai essayé d'appeler l'hôpital, j'ai eu l'accueil, mais comme j'étais tout en haut de l'hémicycle, qu'il y avait un bruit pas possible, je n'entendais rien. Donc j'ai demandé à mon assistante parlementaire par SMS de rappeler l'hôpital. Entre deux, j'ai quand même essayé d'appeler ma fille parce que la seule personne qui était sur le littoral hier, c'était ma fille. Donc j'ai eu peur qu'elle ait eu un accident de voiture ou qu'elle ait eu quelque chose de grave. Donc elle m'a rassurée parce qu'elle n'avait rien. Mon assistante parlementaire m'a re-rappelé en me disant qu'il ne trouvait pas trace, si vous voulez, de quelqu'un qui venait de rentrer dans l'hôpital au nom de Hongrand. Donc là, j'ai commencé à me rassurer. Le temps que j'ai tous ces appels téléphoniques, ça m'a pris 15 minutes.
Alors avant d'évoquer ce qui aurait pu se passer en cas d'absence de cette députée en particulier, parce que c'est, on a bien compris que son mari étant souffrant, elle aurait pu très bien partir en trombe. Rappelez quand même qu'il va y avoir une enquête. Même Yael Braun-Pivet a été très ferme sur la question. Ça ne va pas rester là, cette affaire.
Non, ça ne va pas rester là, parce qu'il y a deux choses de toute façon à élucider. La première, c'est de savoir éventuellement si l'enquête aboutit, de voir d'où ça vient. Est-ce que ce sont des actes isolés de personnes pas bien malines et très mal intentionnées? Est-ce que c'est des adversaires politiques? Marine Le Pen, elle a quand même conscience, c'est très ciblé, c'est le groupe du Rassemblement National. D'ailleurs, ce sont trois femmes, c'est-à-dire qu'apparemment les femmes sont les seules jugées intéressées par leur vie privée, sans doute par ces personnes. Et forcément, Yael Braun-Pivet, elle a aussi peur que ce genre de phénomène, là on parle de trois députés, mais puisse se reproduire, qu'il puisse y avoir des appels malveillants de plus en plus avec des personnes, ce sont des groupuscules organisés qui pourraient être peut-être encore plus convaincants. Et forcément, tout ça désorganise la vie de l'Assemblée. Là, cette députée dit, voilà, il a fallu au moins 15 minutes pour clarifier tout ça. On ne va pas pouvoir, à l'Assemblée nationale, avoir chaque fois, tous les jours, qu'il y a des débats, ce genre de situation.
Oui, bien sûr. Et alors, sur le vote, à proprement parler, beaucoup ne le savaient pas. Enfin, nous, on le savait. Mais il fallait quand même que la personne, parce que je crois que c'est une seule personne, a priori, qui a laissé ces trois messages, sache exactement quelle était la conséquence directe en cas de départ précipité de l'hémicycle. Hein.
Oui, parce qu'en fait, la motion référendaire avait été déposée par le Rassemblement national. Les députés qui ont été appelés avaient évidemment signé cette motion référendaire. Et donc, ils doivent être présents à ce moment-là dans l'hémicycle pour pouvoir la défendre et pour que la motion, comme le disait Marine Le Pen, ne tombe pas. Donc, ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui connaît forcément ce processus-là. Et surtout, c'est aussi quelqu'un, on l'a bien entendu, c'est sur le portable privé de ces députés. Pour que les téléspectateurs comprennent, évidemment, les numéros privés de députés, ça n'est pas accessible non plus à tout le monde et ça a été vraiment ciblé. Donc c'est quand même quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'Assemblée et surtout qui avait accès sans doute à une base de données avec les numéros des députés Rassemblement National.
Philippe Doucet, méthode abjecte s'il en est. De toute façon, ça c'est vraiment... on touche le fond du fond là.
On peut être en désaccord avec le Rassemblement national, et ça ne surprendra personne que je le sois. Mais derrière, dans ce que vous dites, c'est qu'il faut bien connaître à la fois la mécanique parlementaire de ce qu'est une motion référendaire et du fait que les députés qui l'ont signée doivent être présents, autrement elle tombe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien connaître les mécanismes du Parlement. Ce n'est pas donné à tout le monde, quand même. Il faut être bien dedans. Soit vous êtes un journaliste politique spécialisé, soit vous travaillez à l'Assemblée, vous savez comment ça fonctionne, soit vous êtes... Bon, donc ça c'est une chose. Derrière, après, ça c'est pas acceptable. Parce que derrière, c'est juste le Parlement, donc la représentation nationale, qui peut pas faire son travail. Donc c'est un truc crapoteux. Et donc pour le coup, effectivement, il faut que et l'Assemblée nationale et la justice fassent son travail dessus, parce que c'est juste empêcher le Parlement, donc les Françaises et les Français qu'ils représentent, de faire son
Jean,
travail.
Jean, en un mot vraiment, si vous...
Je pense que ce sont des méthodes véritablement de voyous. Je note quand même que dans la sphère médiatico-politique, les réactions ont été très mesurées. On imagine encore une fois que ça aurait été des députés de gauche ou encore pire, de la France insoumise qui avaient été visés par la moitié de ce genre de comportement. On aurait eu les unes sur France Inter, les 20 heures qui s'ouvraient là-dessus. Là, la réaction a quand même été assez timorée. On aurait crié au retour du fascisme, à l'antiparlementarisme, le fait qu'on empêche les députés de faire leur boulot, alors qu'ils ont été...
En attendant, un responsable d'un parti de gauche qui...
Oui, mais enfin bon, vous avez condamné, mais vous n'êtes pas rentré dans des danses apoplectiques comme si c'était agi de quelqu'un de gauche ou de la NUPES. Voilà,
on va devoir s'interrompre quelques...
Les danses apoplectiques, je suis très bon.
On va s'interrompre à nouveau parce qu'on vous accorde un petit peu plus de temps pour vous. Je voulais juste vous quitter sur cette image que vous avez peut-être aperçue à droite de votre écran, d'une poubelle de verre qui a été désossée, renversée. Et puis voilà, ces vandales là sont en train de se servir copieusement pour tenter soit de mettre le feu, alors là on voit un type qui est en train d'essayer de mettre le feu carrément à la poubelle, soit de récupérer ces bouteilles vides pour pouvoir s'en servir comme projectile. Et alors là, voilà, là, bravo, il est en train de mettre le feu.
Et à droite, c'est le même qui a cassé
complètement lamentable sur cette image.
Et à droite, c'est le même qui a cassé le panneau publicitaire.
Le panneau publicitaire. Voilà, on y reviendra bien sûr pour voir si tout cela venait à évoluer. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission. Avant de reprendre le débat et de retourner dans le cortège, le rappel des titres avec Mathieu Devez.
La sécurité civile française est arrivée en Turquie. Des dizaines de secouristes viennent en aide aux victimes du séisme qui a frappé le pays hier. Le bilan s'aggrave en Turquie et en Syrie. Plus de 5000 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,8. C'est le plus meurtrier depuis 1999. Un maire du Bas-Rhin poursuivi en justice après avoir fait annuler un mariage en octobre dernier. Le cortège avait été signalé comme dangereux. De multiples incidents avaient été recensés, dont plusieurs tirs à blanc effectués par un invité. Pour avoir donc refusé de célébrer ce mariage, le maire a été assigné en justice par le couple qui lui réclame plusieurs milliers d'euros. L'audience aura lieu le 14 février, jour de la fête des amoureux. Les soldes d'hiver s'achèvent aujourd'hui avec de meilleurs scores que l'année dernière. 6% de chiffre d'affaires supplémentaire sur les trois premières semaines. Mais un bilan en trompe-l'œil puisque l'année dernière avait été marquée par un rebond de l'épidémie de Covid-19.
Merci beaucoup. Retour dans le cortège. La mobilisation du jour cet après-midi, vous le savez, ça se passe à Paris, quelque part entre l'Opéra et la Bastille. Bonjour Augustin Donadieu. Vous êtes dans le pré-cortège où il y a eu une nouvelle charge de policiers il y a quelques minutes.
Ouais, à l'instant, ici, place de la République, les esprits se sont échauffés très rapidement. Les Black Blocs se sont organisés, se sont regroupés. Et au top départ de l'un des individus, ils se sont projetés le long de fast-food américains très connus sur lesquels ils ont jeté des bouteilles en verre. Et encore une fois, le déploiement des forces de l'ordre a été efficace. En quelques secondes, ils se sont déployés ici, place de la République, pour protéger les restaurants et repousser les manifestants violents à coups de bombes de désencerclement notamment, et c'est ces Black Blocs qui ont du coup reculé et qui sont maintenant visiblement extirpés de cette place de la République avec un déploiement policier, il faut bien le dire, très impressionnant et très rapide. Entre le moment où les premiers jets de bouteilles ont eu lieu sur ces restaurants et le moment où ces forces de l'ordre se sont déployées, il s'est écoulé à peine 35-40 secondes tout au plus. Cette nouvelle doctrine semble effectivement bien fonctionner.
Merci beaucoup. On va rester sur vos images, Augustin, si vous le voulez bien, et les commenter avec notre expert en sécurité, Pascal Bitopanelli, qui est avec nous. Je vous vois opiner du chef. Moi, j'ai une question. Est-ce que ces espaces qui sont dits plus ouverts, comme l'est la place de la République, sont un terreau plus fertile pour ce genre d'agissement ?
Oui, naturellement, mais c'est aujourd'hui une constatation, pas aujourd'hui, qu'on a depuis longtemps, c'est que les espaces, c'est aujourd'hui... le cadre, le moyen, l'enjeu de toutes les mobilisations. On travaille sur des grands espaces aujourd'hui et le maintien de l'ordre change en ce sens qu'il doit travailler sur la gestion des flux et un peu moins sur les espaces qu'avant. Alors cela dit, et ça a été dit par votre journaliste sur Zone, il est vrai que on voit que le nouveau préfet pratique un maintien de l'ordre plus classique, mais pour le moment qui est efficace, où il dispose les forces de sécurité au plus près de la manifestation, en laissant intervenir juste quand il le faut les unités mobiles pour interpeller et faire sortir, disjoindre les individus interpellés pour faire baisser la tension. Cette technique-là, c'est une doctrine de maintien de l'ordre un peu plus classique qui, pour le moment, fonctionne bien et permet d'avoir, ça a été dit, un temps de réactivité beaucoup moins important. Ça rassure les manifestants et ça a également un aspect bien sûr préventif. On change un peu de la doctrine précédente.
Alors, deux salles, deux ambiances, comme on dit, quoique. Gauthier Lebray, vous êtes à l'Assemblée nationale. Les choses paraissaient assez mal engagées hier avec diverses tentatives d'obstruction et puis des rappels au règlement, en veux-tu, en voilà. Quelle est l'ambiance aujourd'hui qui règne alors que s'achèvent bientôt les questions au gouvernement et qu'on va rentrer à nouveau dans l'examen du texte ?
Bien écoutez, la tension, il y en a aussi ici à l'Assemblée. Évidemment, une tension d'un tout autre ordre, mais vous l'avez rappelé, ça a commencé dès hier, effectivement, avec ces messages vocaux reçus par trois députées RN femmes. Trois femmes à qui on a fait croire qu'elles avaient des proches hospitalisés à l'hôpital. Alors, des plaintes vont être déposées, puisque c'était complètement faux. Ces messages vocaux étaient des messages fallacieux. Et selon Marine Le Pen, il s'agit du même auteur pour les trois messages vocaux. Ensuite, autre preuve de tension extrême ici à l'Assemblée, la présidente de la Commission des affaires sociales, donc qui est vraiment une figure importante de ces débats autour de la réforme des retraites, puisque c'est au sein de sa commission qu'ont été débattus les différents amendements la semaine dernière. Eh bien, elle a reçu un courrier à sa permanence avec de la poudre blanche, dit-elle, qui menaçait sa famille, ses enfants, et qui faisait référence justement au débat de la semaine dernière en commission. Et puis, dernier point, l'Assemblée nationale. On s'en est pris à l'Assemblée nationale ce matin. Des tags ont été mis à la porte de l'Assemblée par le groupe Attac, qui est un groupe qui se revendique écolo. Ils ont tagué en grand sur la porte de l'Assemblée 60 ans, puisqu'ils demandent la réforme des retraites non pas à 64 ans, mais à 60 ans. Des tags faits alors qu'il y avait des députés de la NUPES présents sur place à ce moment-là. Et puis Yael Braun-Pivet a pris la parole à midi pour dénoncer ces agissements, pour annoncer aux journalistes que ces militants d'Attac ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Et puis, alors que nous étions en pleine question au gouvernement, Elisabeth Borne, elle aussi, a pris la parole pour dénoncer ces agissements et pour soutenir les députés, peu importe qu'ils soient Renaissance ou du Rassemblement national, qui ont été visés par des attaques.
Merci beaucoup, Gauthier, pour ce rappel des différents agissements depuis hier au sein même de l'hémicycle. Élodie Huchard, j'aimerais qu'on revienne à une analyse un peu législative, c'est-à-dire que il reste 10 jours, grosso modo, d'examen du texte. Hein. C'est la période, je crois qu'il faut que tout soit bouclé le 17 février. 20 000 amendements, dont 12 000 déposés par la seule NUPES. Autant dire qu'on n'y arrivera pas. Hein. Ça, c'est à peu près acquis.
Ah oui, alors il n'y a aucun suspense. Si la NUPES maintient bien tous ses amendements, de toute façon, le 17 février, le texte partira au Sénat et les députés n'auront pas pu tout examiner. Alors, il y a d'autres solutions. C'est la NUPES, d'ailleurs, l'a dit Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, le disait la semaine dernière. Si on sent que le gouvernement est un peu plus constructif, qu'il nous laisse le temps de débattre, on supprimera un certain nombre d'amendements. L'enjeu principal étant d'arriver à l'article 7. On le rappelle que c'est l'article de loi qui parle justement de l'âge de départ à la retraite, parce que dans les conditions actuelles, il est fort probable que les députés ne parlent jamais âge de départ à la retraite. Et forcément, quand même, les Français, c'est aussi ça qui les intéresse. Alors, Mathilde Panot, quand elle dit qu'il faut que le gouvernement nous laisse débattre, ça sous-entend qu'il faudrait plus de temps dans les débats, qu'elle veut la garantie qu'il n'y ait pas de 49-3 derrière. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est un jeu de dupes, puisque de toute façon, elle n'obtiendra pas ça. Mais on l'a vu, par exemple, en commission des affaires sociales, ils avaient 3 jours pour étudier le texte. Ils ont fait 2 articles à peine. Et honnêtement, on a vu à quel point les débats traînaient. Et déjà, rien qu'en commission, les députés en sortant étaient un petit peu lassés, fatigués, en nous disant de toute façon, le spectacle qu'on donne aux Français est assez déplorable parce qu'on ne parle pas en fait de ce qui les intéresse vraiment.
Allez, un mot de commentaire, Philippe Doucet.
Oui, c'est le temps parlementaire. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, tout va vite. Le temps parlementaire, c'est un temps qui est lent. Bon, il se trouve que le gouvernement ne veut pas donner du temps, parce que, vous l'avez dit, 3 jours en commission pour un texte de cette importance, ça n'existe pas. Donc, en fait, le gouvernement a décidé de passer en force. Donc, on n'arrive plus à être dans un travail sur le texte, mais on est dans une bataille politique autour du texte, même à l'Assemblée nationale, avec le gouvernement qui veut réduire le temps de parole des députés, en fait, parce que 15 jours pour examiner ça, dans les faits, ça n'existe pas. En même temps, les députés, ils se disent, on met les motions, les renvois, et ça, parce qu'il y a aussi toute une procédure parlementaire. Bon, c'est un vieux débat sur la procédure parlementaire, autant des réseaux sociaux et des chaînes d'infos. Bon, voilà, donc c'est un peu daté, mais c'est une bataille aussi importante.
C'est un temps parlementaire tronqué, Jean Messia, mais à dessein par cet exécutif qui sent bien que de toute façon, ça n'aurait pas été forcément très constructif qu'on y consacre un mois, 2 mois, ça n'aurait pas changé grand-chose à l'affaire.
moi je crois, si vous voulez, que l'Assemblée nationale est la caisse de résonance de ce que vous constatez dans la rue et chez les Français de manière générale. Je ne vois pas d'étanchéité entre la contestation parlementaire, la contestation de la rue et, j'allais dire, la contestation de salon, c'est-à-dire ceux qui ne manifestent pas mais qui répondent aux sondages massivement en disant qu'ils sont contre. Le gouvernement, si vous voulez, fait face effectivement à une opposition parlementaire d'autant plus forte que, comme chacun sait, il n'a que la majorité relative. Donc il a beaucoup de mal. On avait, rappelez-vous, dans la première partie de la présidence d'Emmanuel Macron, les derniers mois, les textes qui, sur le pouvoir d'achat, sur l'accroissement du pouvoir d'achat, étaient des textes très consensuels parce qu'il s'agissait de dépenser. Donc là, effectivement, la majorité relative était un peu passée inaperçue et on s'est dit, bon an, mal an, les choses évoluent. Et à l'époque, j'avais dit, attention, quand on rentrera dans le dur, c'est-à-dire quand on rentrera dans les premières réformes qui consisteront non plus à dépenser de l'argent, mais au contraire à faire des économies, à commencer par la réforme des retraites, mais pas que, la réforme de l'assurance chômage, etc., là, le gouvernement sera confronté véritablement à ce qu'est une majorité relative au Parlement. Et donc ce à quoi nous assistons aujourd'hui, on est en plein dedans, exactement.
On va retourner, avant de refermer cette petite parenthèse, sur le terrain, avec Maxime Lavandier. Alors Maxime, vous êtes dans une configuration particulière, c'est-à-dire que je crois qu'aux alentours de 15h30, on a débloqué ce qu'on appelle un itinéraire bis, qui permet de faire une sorte de délestage de l'itinéraire principal. Et vous êtes précisément avec des manifestants sur cet itinéraire bis qui passe un petit peu plus au sud, plus proche de la Seine.
Oui, tout à fait, Nelly. Je me trouve aux côtés de la CGT 95 au niveau de l'avenue de l'Opéra. Là, vous pouvez le voir sur les images de Sacha Robin, il y a encore beaucoup de monde présent aujourd'hui contre cette réforme. On constate surtout qu'on peut voir des gens de toute classe sociale, de tout âge, et qui ont tous le même discours. Alors, certains, bien sûr, les retraités sont là pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. D'autres mettent l'accent sur la pénibilité. Mais, comme vous pouvez le voir, tout se passe assez bien dans l'ensemble. Il y a une ambiance bon enfant, avec de la musique, des pancartes toujours hostiles contre le gouvernement. On a pu voir des non à la réforme, non à Macron, non à Elisabeth Borne. Borne, d'ailleurs, des pancartes qui ont joué sur le Born to be Alive avec Born to be Dead. Mais dans l'ensemble, la manifestation, pour l'instant, se passe bien sur cet itinéraire bis. Et on peut voir qu'avec cette troisième journée de mobilisation, cette dernière est toujours aussi massive.
Un cortège B qui, effectivement, là aussi, est assez fourni. On se quitte sur ces images. On y revient dans quelques minutes pour conclure cette tranche info. À tout à l'heure. Nous aussi, on ne manifeste pas, mais on débat dans la bonne ambiance, la bonne humeur sur ce plateau. On va rejoindre le cortège tout de suite en compagnie de Simon Guilin. Bonjour Simon, vous êtes aux côtés d'un pompier qui, je crois, n'en est pas à son coup d'essai. Alors lui, il a répondu présent à toutes les mobilisations depuis le début.
C'est exactement ça, Nelly. Média a participé aux deux précédentes mobilisations. Il a tenu à être présent encore une fois aujourd'hui. Mehdi, merci de répondre à nos questions en direct. Vous avez donc, je viens de le dire, vous avez participé aux deux précédentes mobilisations. Vous êtes encore là aujourd'hui. Pourquoi vous tenez à être là systématiquement à ces mobilisations?
Tout simplement parce qu'en fait, je trouve ça légitime. Aujourd'hui, nous, dans notre profession, on a la possibilité de partir à 57 ans à la retraite. Aujourd'hui, on nous demande de partir à 59 ans, donc faire 2 ans de plus. Pour nous, ce n'est pas acceptable, en fait. En fait,
quoi ?
Le métier de pompier, c'est un métier qui est assez physique, qui demande des automatismes, qui demande une bonne condition physique. Imaginez-vous si demain, je dois monter au 10e étage d'un appartement pour aller sauver des vies, ce sera beaucoup plus long que si c'était une personne qui était beaucoup plus jeune. On nous demande également de faire des missions comme nos collègues dans le sud, des feux de forêt. À 59 ans, c'est pas possible.
Le gouvernement a l'air de vouloir rester sur ses positions. Si ça continue dans le sens du gouvernement, qu'est-ce que vous comptez faire? Jusqu'où irez-vous pour obtenir ce que vous voulez?
Nous, on continuera à appeler à garnir les cortèges de manifestation, de venir manifester, de demander le retrait de cette réforme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas là également que pour nous. En fait, on est là aussi par solidarité, parce que tout métier est pénible. Le nôtre est pénible. Celui qui travaille en centre hospitalier, c'est pénible. Celui qui travaille dans l'enseignement, c'est pénible. Celui qui travaille dans l'industrie, le travailleur, c'est pénible. Tout est pénible, en fait, dans les métiers.
Vous serez là,
pour garnir les cortèges.
On sera là pour garnir les cortèges, en fait.
Vous serez là samedi prochain?
Oui, je serai présent samedi prochain. Je serai là à toutes les manifestations avec mes collègues. On se mobilise, on fait en sorte d'être présent pour justement manifester et montrer notre mécontentement. Aujourd'hui, les gens sont dans la rue. Ils disent stop, ça suffit, en fait. Ça suffit, il faut retirer le projet, tout simplement.
Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir répondu à nos questions. Alors, juste une information. Donc voilà, la manifestation se passe globalement et bien dans le calme. Nelly, alors il y a eu, vous l'avez entendu tout à l'heure, quelques tensions au niveau de la place de la République devant les fast-foods. Et là, nous continuons à marcher sur le boulevard du Temple. Et voilà, il y a des manifestants qui s'en sont pris à une société d'assurance avec des jets de pavés. Mais pour le moment, eh bien, écoutez, depuis le départ de ce cortège, ça se passe pour le moment dans le calme, malgré quelques tensions depuis une petite demi-heure maintenant.
Eh bien, on va le vérifier ailleurs avec Augustin Donadieu. Augustin, il y avait des tensions avec les policiers il y a quelques minutes en tête de cortège. Est-ce que ça va mieux ?
Oui, effectivement, et les tensions qui ne devraient pas tarder à revenir. Je vous explique la situation. Nous sommes dans une rue qui dessert la place de la République. Effectivement, des tensions tout à l'heure place de la République. Et cette doctrine dont je vais vous parler, regardez sur ces images, d'ailleurs une société d'assurance prise à partie par un élément radical pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Tout au long du cortège, les forces de l'ordre sont invisibles. Aucune force de l'ordre sur les côtés. Mais elles sont bien là, elles sont cachées dans les rues adjacentes. Logeant le cortège. Et à l'instant, là où nous sommes actuellement, les forces de l'ordre étaient visibles au bout d'une rue. Et c'est à ce moment-là que les éléments radicaux que vous voyez sur nos images se sont arrêtés. Des provocations ont lieu du côté d'éléments radicaux et certains profitent un petit peu du chahut, de la cohue, pour attaquer certaines vitrines.
Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Bon, pour l'instant, ça se passe correctement. Il y a un peu de grabuge ça et là, mais enfin bon, c'est quand même... pas classique, mais monnaie courante quand même, hein, dans
absolument.
Chaque cortège, surtout
reste,
de cet ordre-là.
On reste dans le degré du service d'ordre, et tant mieux, avec, on le voit, des unités lourdes mobiles qui sont près des manifestants, très coordonnées avec les unités mobiles d'intervention. On maintient le calme, mais on voit par ailleurs qu'on a, dans cette mobilisation fédératrice, des gens qui ont l'habitude de manifester, qui se comportent bien, avec fraternité, des panneaux, de la musique, qui sont là réellement pour montrer leurs idées.
Alors, on va retourner bientôt dans l'hémicycle, parce qu'il y a des questions qui nous intéressent, bien sûr. Alors, on est toujours, chère Élodie, on va faire une petite dégression, à la séance des questions au gouvernement, ça on le maintient, mais à 17h, on rentre à nouveau dans l'examen. Qu'est-ce qui peut se passer à 17h, en un mot ?
Alors à 17h, on va voir déjà l'ambiance, et ça c'est toujours important parce qu'hier, dès les premières minutes, en fait, on a compris que ça allait être compliqué. Est-ce que, comme hier, on va avoir des suspensions de séance sans cesse, ou des rappels au règlement ?
Et on va écouter un député, Louis Boyard, pour la NUPES.
C'est pas un député.
À genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Je crois que vous avez peur de la jeunesse parce que vous venez de recommencer. Alors que les universités de Rennes 2, du Mirail, de la Sorbonne et que 200 lycées se sont mobilisés aujourd'hui, vous avez à nouveau instrumentalisé la police comme un moyen de réprimer les jeunes. Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer les étudiants. Ce matin, au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens. Vous avez envoyé la police gazer aux lacrymogènes des lycéens mineurs. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazer aux lacrymogènes ou éborgner aucun lycéen mineur ou aucun étudiant?
Je vous remercie. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je crois que moi j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez « c'est un fait que la police tue ». Le 31 mars, vous rajoutiez « comment ne pas voir que les contrôles abusifs de la police tuent ». Sur fond de refus d'obtempérer, les policiers abusent de leurs armes et tuent en conséquence le 8 septembre. Bref, on peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, monsieur le député, au lycée Racine, il y a eu 4 interpellations et personne passée en garde à vue sous l'autorité du procureur de la République pour dégradation volontaire, violence commise en réunion, violence contre les policiers. En effet, quand c'est ce cas-là, je vous garantis qu'il y aura des interpellations. Pour le reste, je crois qu'en France, tout le monde constate que les manifestations se passent le plus correctement du monde, et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes.
Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Boyard.
Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a pas de contrôle abusif en raison de la couleur de peau. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a jamais eu de débordement après des refus d'obtempérer. Monsieur le ministre, vous volez 2 ans de vie aux étudiants et à leurs parents avec votre réforme des retraites. Vous affamez dans les universités, vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup. Vous les condamnez par votre inaction climatique. Vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire ? Non. Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez, nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. Lycéens.
Merci beaucoup. La parole est à monsieur Gérald Darmanin.
Merci, Madame la Présidente. On avait bien compris le principe général de votre question, qui n'était ni finalement sur les étudiants ou sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir, sans doute pour vos réseaux sociaux, les 15 secondes que vous dit Harold évoquées pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire un petit moment de reconnaissance. Oui, monsieur le député, vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans Le Parisien, c'est la bordélisation du pays. Oui, monsieur le député, ces propos seraient presque apprêtés à rire s'ils n'étaient pas si graves de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici, dans le temple de la démocratie, que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité, pour parler comme le Parti communiste que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte, et ce mépris social qui est le vôtre, monsieur le député, malheureusement.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Et on va se quitter sur cette image tellement emblématique, on ne pourra pas la commenter malheureusement, punchline débute dans quelques instants, tellement emblématique de ce qui se passe en ce moment, ce degré de tension qui s'est cristallisé dans l'hémicycle, avec cette question de Louis Boyard et la réponse de Gérald Darmanin. Et puis, au même moment, quelques heures à nouveau observées dans le cortège parisien. Vous commenterez tout cela avec Laurence Ferrari dans un instant et ses invités. Ce sera le début de punchline. Merci à tous les quatre d'être restés en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous demain, ici à 15h30. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle, or upgrade to next level protection with the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. allbirds.com, code FRESHSOCKS.